L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juin, toujours sous un beau soleil très estival pour cette émission. Et je suis en compagnie de Claire, comme d'habitude, avec grand plaisir. Salut Claire, comment ça va?
Salut Marie, salut tout le monde. Il fait chaud. Il fait chaud, mais ça fait plaisir.
Toujours. En fait, c'est bien ça. Tu peux l'adapter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que, on le rappelle, gardez une bouteille d'eau hein, à côté de vous toute la journée, je pense. Et puis n'importe quoi, la clim, un ventilateur, mais il va faire chaud encore aujourd'hui. Vous le savez déjà et vous le ressentez, j'imagine, mais faites attention. On va en tout cas vous proposer au sommaire de cette émission, alors non pas un reportage sur les ventilateurs, ça aurait pu, mais sur un appareil qui désinfecte une pièce par la lumière, donc désinfecte la pièce de tous les virus, y compris la Covid-19, le coronavirus, avec la lumière. On va justement voir un petit peu comment ça se passe, et puis on va aussi parler d'un sujet qui est encore tabou, hein, même dans les associations auprès de ces personnes concerner les mutilations sexuelles féminines. Et c'est vrai que c'est très varié aujourd'hui puisque l'interview sera là aussi dans un tout autre domaine. On va faire le point sur les nouveautés à la rentrée, les nouveautés pour les étudiants à Laval à la rentrée 2021 mais aussi à la rentrée 2022. Et puis Claire, on va retrouver avec grand plaisir une chronique des archives du studio vidéo de Laval. Est-ce que tu nous en dis un peu plus ou tu laisses le suspense?
Ben, je vous rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, 1983, grand événement sportif lavallois. Voilà, restez jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est, si vous n'avez pas déjà deviné, mais
oui,
le
mais
son
petit...
en vaut la peine.
Oui, ça j'en suis sûre, ça c'est sûr. Mais un petit rafraîchissement de mémoire, ça fait toujours du bien, même si tu l'avais effectivement déjà dit la semaine dernière. On fait un petit point sur l'actu ?
Voilà. Allez, c'est parti. Un point sur l'actualité, la vaccination désormais ouverte aux adolescents.
À partir d'aujourd'hui, les mineurs de 12 à 17 ans peuvent recevoir leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Sous certaines conditions, ils doivent se présenter avec une attestation remplie par leurs deux parents et être accompagnés de l'un d'eux. Une attestation téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. Et ce sera possible notamment au centre de vaccination de Château-Gontier, où de nombreux créneaux sont disponibles cette semaine. Deux nocturnes sont programmées jeudi et vendredi jusqu'à 19h45 et une ouverture exceptionnellement ce samedi de 9h à 13h. Les rendez-vous sont à prendre via doctolib.fr en appelant le 02 43 53 53 00 ou en vous rendant à l'espace Saint-Fiacre.
Des militaires présents ce matin sur la voie de la liberté.
Et si vous vous êtes levé tôt, vous les avez peut-être vus dans les rues de Château-Gontier à 7h ce matin. Depuis le 13 juin, le régiment de marche du Tchad a entamé un relais pédestre, 1500 km au départ d'Outa Beach, pour rejoindre l'Alsace, 80 ans après le périple des hommes de la 2e division blindée Leclerc. Il passait donc ce matin par le Haut-Anjou, en provenance de Cossé-le-Vivien, par Château-Gontier, et donc ont pris la direction du Mans.
16 établissements scolaires fermés le jour du Tour de France.
Et oui, ce jour du Tour de France, le 30 juin, forcément, ça nécessite la mise en place d'une logistique importante. La circulation dans l'agglomération lavalloise va être très compliquée ce jour-là, vous vous en doutez, surtout pour ceux qui habitent ou qui doivent se rendre à l'intérieur du parcours de la Grande Boucle. Et 16 établissements scolaires, écoles, collèges ou lycées doivent être fermés. La liste, bien évidemment, sera à trouver sur le site de la préfecture.
Une nouvelle carte d'identité en Mayenne.
Et oui, elle est disponible depuis ce lundi dans le département, avant une généralisation en août prochain partout en France. Par rapport à l'ancienne carte d'identité, elle fait la taille d'une carte bleue et elle est beaucoup plus sécurisée avec une puce à l'intérieur pour empêcher, entre autres, les usurpations d'identité.
Le club de roller de Château-Gontier organise une session découverte demain et mercredi 23 juin.
Et oui, le rendez-vous est fixé sur la piste de Loisillière de 15h à 17h. La session est ouverte à tous pour découvrir les courses sur piste, le sprint, les slaloms ou les jeux. Vous pourrez aussi découvrir les différentes sections, l'école de patinage, la course, la rando-loisir et le hockey. Renseignements par mail à rollcg53@gmail.com.
Et Marie, une désinfection anti-Covid grâce à la lumière.
C'est le principe du produit développé par la société Arkam, désormais accessible en Mayenne. Une lumière UVC qui enlève 99,9% des bactéries et virus dans une période de 30 minutes à 2 heures dans une pièce. On peut même programmer l'appareil en fonction des horaires de rendez-vous, de travail par exemple. Le procédé est sur le marché depuis quelques mois après de nombreux tests vérifiés. Explication avec Stéphane Usan, cofondateur de la société Arkam.
Nous disposons dans des plafonniers, des modules à LED UVC. J'insiste sur les terminologies LED, puisque c'est une nouvelle technologie pour les UVC, qui est installée en plafond, couplée à une plateforme logicielle et qui permet de certifier la désinfection avec émission de certificats à chaque cycle. On sait depuis des années que les UVC sont efficaces contre tous les virus et bactéries, y compris le coronavirus, le Covid-19. Notre système émet de la lumière, mais que on ne voit pas à l'œil nu, mais ces UVC cassent l'ADN, donc cassent tout ce qui est virus et bactéries. À titre d'exemple, dans mon bureau, toutes les nuits, le système se met en marche, et tous les matins, mon bureau est désinfecté. On a mis au mur un petit document avec les mesures de précaution concernant les UVC, c'est-à-dire de ne pas rester dessous, même si on met des capteurs de toute façon qui s'arrêteraient. Et à côté de ces obligations légales, on a mis un QR code. Comme ça, n'importe quel utilisateur d'une pièce qui est désinfectée peut s'assurer qu'elle soit désinfectée. Nos solutions sont fabriquées en France, ont été testées en hôpital, mais avaient été créées et développées pour lutter contre les maladies nosocomiales. Mais comme les tests ont eu lieu pendant le premier confinement, on nous a posé la question de savoir si ça pouvait fonctionner sur d'autres secteurs que le secteur de la santé. Donc voilà, c'était pas une solution contre le Covid à la base, mais contre d'autres virus et bactéries. Les écoles ont été nos premières cibles, mais malheureusement, les écoles publiques ne réagissent pas. C'est trop long, c'est pas dans leur ADN de réagir rapidement. On n'a pas eu de retour, ça pourrait être peut-être demain, parce que ça pourrait être très très bien de protéger nos enfants. Les écoles privées ont beaucoup plus réagi. De la même façon, les établissements de santé privés réagissent beaucoup plus rapidement que les établissements de santé publics qui sont très intéressés, mais on verra en 2023 ou 2024. Il y a tout le domaine de l'hôtellerie. C'est aujourd'hui une cible qui est très intéressée par nos solutions parce qu'ils peuvent automatiquement désinfecter tant les pièces, ce qu'on appelle les points de contact, le restaurant, les lieux de cafétéria par exemple, que bien évidemment les chambres et les sanitaires.
L'appareil coûte environ 120 euros du mètre carré à l'achat, avec des possibilités de location. En Mayenne, c'est la Fédération française du bâtiment qui peut vous conseiller et l'installer dans les entreprises, écoles ou hôpitaux.
Et Marie, deuxième reportage, deuxième sujet, les mutilations sexuelles féminines en discussion avec des professionnels de santé et associatifs.
À l'initiative de plusieurs associations dont Femmes Solidaires 53 et le Secours Populaire, une formation autour de ce sujet, encore assez tabou, a eu lieu début juin au FJT, au foyer de jeunes travailleurs de Château-Gontier. Les mutilations sexuelles féminines concernent l'excision, et qui est souvent accompagnée malheureusement de violences et de mariages forcés. Le docteur Sébastien Mazou, médecin gynécologue au CHU d'Angers, s'occupe notamment des opérations de réparation des femmes.
Nous, on les voit pendant les grossesses parce que c'est des patientes qui sont souvent enceintes et qui arrivent souvent, qui ont souvent des déchirures importantes lors de l'accouchement. Et cette information aujourd'hui, avec la présence des sages-femmes qui étaient là, les gens de la santé, a permis à ce qu'on puisse mobiliser ce personnel pour qu'ils soient avertis dans les cas où ils auraient des patientes ayant donc des mutilations génitales féminines. Effectivement, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Généralement, ils ont des entretiens. Parfois, ils viennent de loin. Ils ont déjà pris des entretiens avec les gens de la PMI, qui les ont vus, qui ont discuté avec eux et qui les accompagnent parfois jusqu'à moi. Parfois, c'est des réflexions qui peuvent durer 6 mois, qui peuvent durer 1 an, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'étape de l'intervention. L'intervention, ce n'est pas quelque chose où j'arrive une semaine, puis 1 mois, et vous avez votre intervention. Non, c'est des patientes vraiment qui ont une réflexion, parce qu'en fait, c'est des patientes qui quittent l'étape de la patiente qui est excisée. Et on va à l'encontre de sa coutume, de quelque chose que la coutume t'a fait subir, et là, tu veux te faire réparer. Il y a quand même une réviscence de tout ce que tu as subi durant l'excision en fait, qui va remonter lors de l'intervention. Donc vraiment, il faut que ça soit quelque chose de bien préparé à l'avance.
Un accompagnement psychologique est toujours proposé en parallèle, comme celui de l'association ICAR, dont fait partie la psychologue Coralie Gaillot.
Alors, on organise des groupes thérapeutiques, alors qui ne sont pas forcément à thématique. On ne va pas organiser un groupe en fonction d'un thème, mais par le biais de différents, comme on l'a pu le voir, souvent c'est des polytraumatismes, donc plusieurs traumatismes, plusieurs événements vécus, dont parfois des mutilations sexuelles. Donc, dans les groupes thérapeutiques, il arrive que des femmes puissent traiter aussi cette question-là, parmi d'autres qui leur sont arrivées. C'est pour ça qu'on envisage une prise en charge un petit peu innovante, c'est-à-dire en groupale, puisque dans certaines aussi culture, parler une prise en charge psychologique individuelle, c'est pas forcément le plus adapté ou le plus évident ou ce qu'on connaît le plus. Et on sait que dans certaines sociétés, les choses se traitent par le collectif. On est entouré, on peut se soutenir dans la confidence et dans le collectif. Donc on mise vraiment sur le groupe pour aider aussi les personnes elles-mêmes. C'est pas que le thérapeute en fait, c'est aussi la dynamique du groupe qui permet à des femmes, même qui ne veulent pas s'exprimer ou qui ne peuvent pas, d'entendre d'autres raconter leur histoire, et par ricochet, elles s'identifient, elles peuvent prendre des petites solutions et se dire je suis pas seule, surtout ça, cet effet-là, quoi, de rompre l'isolement et la solitude.
De réels résultats se font sentir sur l'amélioration du bien-être et les symptômes, comme les cauchemars qu'elles font régulièrement. En France, 125 000 femmes seraient excisées. On parle d'un tout autre sujet d'ici quelques minutes, les changements qui attendent à la rentrée les étudiants lavallois, les nouvelles formations proposées, comment le campus va lui aussi s'adapter. Ça, ce sera dans 3 minutes, juste après The Strokes. Et non, The Strokes, ce sera plus tard. On écoute plutôt Architecture in Helsinki, Dream a Little Crazy. Crazy de Architecture in Helsinki. Comme vous l'avez compris, cet été, il faut que je prenne des cours d'anglais, mais en tout cas, c'est le morceau que vous venez d'entendre dans la JT du local. Et puis, comme promis, juste avant la pause musicale, on fait le point sur les nouveautés à venir sur le campus lavallois, alors que c'est l'heure des rattrapages, des derniers rattrapages d'ailleurs pour les étudiants concernés. L'IUT est dans les starting blocks pour la grande réforme nationale mise en œuvre dès le mois de septembre. Plus de DUT, de diplôme universitaire de technologie en 2 ans, mais un BUT, un bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Nous verrons comment l'établissement se prépare à ce changement structurel, mais avant, on se projette un peu plus loin, à la rentrée 2022, avec la faculté de droit de Laval qui va accueillir bientôt donc un pôle master doctorat à partir de cette date.
Bonjour à tous, je suis Sylvie Le Breton-Dérien, donc vice-doyenne de la faculté de droit Le Mans-Laval de l'Université du Mans, encore pour quelques semaines, et je reviendrai dès la rentrée de septembre 2021, donc co-directrice de la faculté de droit Antenne de Laval, et puis en même temps directrice de la nouvelle chaire universitaire de recherche qui accompagnera le pôle master et doctorat dans son développement, la chaire droit et transition sociétale.
Justement, donc, vous l'avez dit, il va y avoir un pôle master et doctorat qui va ouvrir en septembre 2022 avec trois masters et un doctorat qui seront proposés. Quels sont-ils déjà, tout simplement ?
Alors, c'est vrai que nous sommes en Mayenne, la faculté de droit a ouvert en Mayenne il y a 45 ans maintenant et nous étions restés au niveau licence. Alors d'abord licence première année, puis deuxième année, à l'époque c'était le DEUG, et puis la troisième année a ouvert au moment de la réforme LMD, licence master doctorat en Europe. Et puis ces dernières années, nous avons noté une demande des étudiants mais aussi des entreprises pour développer un pôle master, que les étudiants ne partent pas tous dans d'autres universités parce qu'ils ont du mal après à revenir en Mayenne souvent. Et donc l'idée, c'est de les fidéliser en Mayenne et puis surtout d'en attirer aussi d'autres. Donc un pôle master, effectivement. Alors trois masters sont prévus d'ouvrir dès la rentrée 2022. Un master en droit privé autour des droits de l'entreprise agricole et alimentaire, avec ce qui plaît aux étudiants actuellement, un souci de santé environnementale. Donc c'est un premier master qui sera en alternance, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, donc une alternance professionnelle. Et puis une alternance aussi pour les étudiants qui choisiraient la voie plutôt recherche, et bien une alternance recherche avec le temps que les autres étudiants seront en entreprise, eh bien, un travail sur un mémoire de recherche. C'est un petit peu, en fait, la distinction qui existait à l'époque entre les DESS, qui étaient plutôt professionnalisants, et les DEA, qui étaient plutôt pour la voie recherche. Un deuxième master de droit public, cette fois, et qui portera sur le droit de la sécurité climatique. Alors lui, l'alternance professionnelle sera plus délicate parce qu'il y aura beaucoup d'international. Donc peut-être plutôt, on privilégiera sans doute un long stage, en fait, de fin de parcours. Et puis, on nous a proposé, en fait, c'est la profession bancaire qui a proposé de développer un master en droit bancaire en alternance. Alors lui sera complètement en alternance et il y aura donc un master droit bancaire au Mans et un à Laval. Voilà les trois masters pour la rentrée 2022.
L'idée, c'est, on l'a bien compris dans le programme justement et les parcours qui sont proposés, c'est de s'adapter vraiment au territoire et aux besoins des entreprises ici en Mayenne.
Oui, c'est cela. L'idée, c'était vraiment de s'ancrer dans le territoire. On avait noté aussi, enfin, les entreprises nous le disaient, qu'elles avaient du mal à recruter aussi. Les jeunes juristes qui partaient ne revenaient pas toujours. Et donc là, l'idée, c'est de les fidéliser finalement aussi, puisque avec le lien alternance durant deux années en master et en M1, ce qui sera assez nouveau finalement et assez unique en France, peu de masters en droit s'ouvrent à l'alternance. Et quand ils s'ouvrent à l'alternance, c'est plutôt en master 2. Là, le pari, c'est peut-être de lancer l'alternance dès le master 1 pour fidéliser en fait un étudiant et l'entreprise.
C'était une demande de vos étudiants là en ce moment qui se retrouvent en deuxième année de licence, voire en troisième année et qui aimeraient rester ici à Laval ?
Alors oui, depuis qu'on a lancé l'idée là dans l'année du lancement de ce pôle master et doctorat, on a d'excellents retours des étudiants. On a toujours des étudiants qui souhaitent partir, ça c'est certain, et on ne va pas les retenir de force. Ils sont heureux d'aller, et puis on ne peut pas non plus proposer un éventail et un panel, en tout cas pas dès 2022. Donc certains étudiants sont toujours appelés à partir, mais on a voilà une majorité d'étudiants qui est ravie en tout cas de ce développement et qui songe effectivement en fonction des maquettes qui sont à venir, mais à choisir de rester à Laval.
Et pour ces étudiants qui justement choisiront la voie alternance recherche, il est possible ensuite de poursuivre en doctorat, c'est ça ?
Oui, alors voilà, l'idée c'était vraiment de montrer qu'à l'université, nous sommes des enseignants-chercheurs et donc nos étudiants, pour eux en tout cas, on mêle l'enseignement et la recherche. Et ça n'aurait pas eu de sens de lancer un pôle master sans un pôle doctorat à coller. Donc ce pôle doctorat, en fait, il a différents objectifs, mais l'idée c'est vraiment de développer un lieu de rencontre ici avec la chaire universitaire pour des étudiants qui souhaiteraient continuer en thèse. Mais mais ce n'est pas uniquement des thèses universitaires financées par, par l'État, l'université. Cela peut être aussi des thèses en alternance. Et ça, nous y croyons beaucoup, nous aussi, en droit. Ça se fait très peu au niveau national. Pour autant, en Mayenne, un premier cabinet d'avocats l'a fait il y a 2 ans avec une ancienne étudiante de droit. Et ça se passe très bien. L'étudiante travaille dans le cabinet d'avocats 3 jours par semaine. Et puis, les deux autres jours, plus souvent son week-end, eh bien, elle les consacre à sa thèse de doctorat. Et ainsi, elle fait bénéficier le cabinet de ses recherches aussi, puisque les sujets sont liés. Et puis, elle-même, elle progresse dans le diplôme et elle est revenue en Mayenne s'installer grâce à cette possibilité de thèse en lien avec le travail.
Justement, l'accompagnement de tous ces étudiants qui font des thèses, c'est aussi l'un des objectifs de la chaire universitaire de recherche. Mais pas seulement, l'idée en tout cas, c'est vraiment de formaliser un réseau de professionnels du droit, c'est ça?
Oui, nous sommes déjà en étroit partenariat avec le monde juridique et judiciaire mayennais. Mais c'est vrai que l'idée était de le formaliser et puis de créer vraiment un lieu de rencontre entre les étudiants, leur donner aussi envie aux étudiants de continuer via la recherche. Nous avons ça attire peut-être un petit peu moins par rapport à d'autres années et puis d'avoir surtout pour les étudiants de se lancer en thèse mais avec des perspectives et cela l'entreprise peut offrir cette perspective parfois peut-être plus facilement qu'une entrée à l'université en direct après la thèse. Donc oui, la chaire de recherche universitaire, c'était vraiment un vœu, un souhait, et nous avons pu le réaliser cette année avec notre premier partenaire qui est le barreau, l'ordre des avocats du barreau de Laval, avec qui nous entretenons effectivement d'étroites relations, et puis surtout au profit des étudiants. Ils sont venus cette année, plusieurs avocats sont venus faire des stages inversés auprès de nos étudiants en licence, pour ne pouvant pas les recevoir tous dans les cabinets cette année, c'était plus compliqué même pour aller au tribunal. Et bien ils sont venus à la faculté de droit leur montrer comment on rédige des conclusions, quel est leur travail au quotidien, et c'était formidable. Donc le barreau de Laval a commencé ce partenariat, est notre premier partenaire. Et puis bien sûr, la vocation de la chaire, c'est une chaire multipartenariale. Donc c'est un appel que je fais grâce à votre micro aujourd'hui. Et puis moi-même, je vais prendre mon bâton de pèlerin pour convaincre les entreprises et puis les institutions. Les collectivités territoriales sont aussi un partenaire privilégié pour la faculté de droit. Laval Agglo et le conseil départemental ont financé cette année un premier contrat postdoctoral au soutien en fait du développement de la recherche et de cette chaire, et c'est grâce à ce fort soutien postdoctoral que nous allons pouvoir lancer, et c'est une première, une université d'été en juin 2022 pour lancer ce pôle master doctorat.
Cette université d'été, justement, elle va être lancée vraiment fin juin 2022. Quel en sera le programme, justement, puisqu'on voit qu'il y a un riche programme qui nous attend ici à Laval?
Alors, c'est tout d'abord une université d'été. Oui, c'est vrai que c'est une première. C'était aussi un rêve de la faculté de droit d'utiliser nos locaux, en fait, à un moment où les étudiants sont repartis, les formations sont terminées, et de faire revenir d'autres étudiants, d'associer aussi, bien sûr, nos étudiants à nous. Alors, cette université d'été, elle aura lieu fin juin 2022. Et elle, pour l'instant, en tout cas, mais les projets arrivent très rapidement en ce moment. Alors pour l'instant, c'est 2 temps. Premier temps, on va réunir la jeune recherche en droit nationale. C'est-à-dire que tous les étudiants qui sont en thèse de doctorat de droit en France pourront venir à Laval cette semaine-là pour présenter leurs travaux de recherche. C'est en lien avec l'Association française des docteurs en droit, et le président, le nom parlera évidemment aux juristes mayennais, c'est Jacques Mestre, le professeur émérite de droit. Il a notamment fait pas mal de droit des affaires, et donc qui a annoncé sa venue pour ce grand forum, en quelque sorte, cette université d'été des doctorants, et avec la présence de docteurs en droit. Et puis, deuxième temps, la semaine suivante, là c'est vraiment le lancement du pôle master et doctorat, c'est une masterclass que nous allons organiser avec des défis juridique, bien sûr, mais aussi sportif, culturel. En fait, les étudiants, ils ont besoin de faire la fête et donc de se revoir, d'être en proximité. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le nom de l'université d'été pour les doctorants, c'est Fête et Droit. Donc voilà, on sera dans le thème. Et puis pour la masterclass Europa, là, le thème, puisque c'est le lancement du pôle master et doctorat, eh bien, le thème est en lien avec, avec ses futures formations et on l'a intitulé Agri-droit, santé et climat. Alors, cette masterclass Europa, d'abord, elle va être marrainée par Valérie Hayer, députée européenne, qui a accepté avec plaisir et nous en sommes absolument, évidemment, ravis. Donc, elle s'adresse aux étudiants français qui souhaiteront peut-être intégrer nos masters. Ils seront déjà inscrits en juin 2022 ou en passe d'être inscrits. Ils s'adressent aussi à nos étudiants de licence qui n'ont pas nécessairement envie de rester en master en Mayenne, mais qui seront ravis de terminer leur cursus de licence dans un environnement un peu festif. Et puis, cette masterclass Europa s'adresse aussi à nos étudiants Erasmus, c'est-à-dire les étudiants étrangers qui pourront soit arriver avant pour les étudiants qui commenceront en septembre, soit repartir après pour les étudiants qui viennent de passer une année en Mayenne.
Laurent Poisson, je suis directeur de l'IUT de Laval depuis 2018.
Donc l'IUT de Laval qui proposait jusqu'à aujourd'hui 4 DUT, des DUT, donc diplômes universitaires de technologie, qui vont se transformer en BUT. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ?
Alors ça va changer beaucoup de choses à l'IUT, même si on va conserver un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire une proximité avec les étudiants, un suivi important. Par contre, voilà, on va avoir une professionnalisation qui va être accrue dans nos formations. Donc ça va passer par l'approche par compétences, ça va passer par un objectif d'insertion professionnelle de 50%, et puis ça va passer aussi par une mise en situation professionnelle des étudiants tout au long de des trois années de formation, via ce qu'on appelle des situations d'enseignement et d'évaluation, où on va contextualiser des situations professionnelles et évaluer les étudiants dans le cadre de ces de ce contexte professionnel.
Pour qu'on comprenne bien, en tout cas, la situation actuelle, c'est qu'il y a des DUT, et ensuite, après le DUT, après ce diplôme, on peut faire des licences professionnelles vraiment plus spécialisées. Là, avec le BUT, du coup, on aura une première année, et ensuite, ce sera lors de la deuxième année de ce diplôme en 3 ans, où on pourra choisir un parcours.
Oui, c'est ça l'idée. Donc avant, on avait un parcours de 2 ans, plus 1 an, en IUT. Donc même si nos étudiants poursuivaient relativement peu sur la licence professionnelle aujourd'hui, donc ils vont s'engager sur un parcours construit sur 3 années complètes. Hein. Et donc effectivement, dans 3 spécialités sur les 4 de Laval, eh bien, les étudiants vont commencer par une année un peu générale et puis ensuite se spécialiser dans des parcours, donc à partir de la deuxième année. Donc il y a une spécialité effectivement où les étudiants devront se positionner sur Parcoursup dès la première année, puisque ce sont des spécialités relativement différentes hein, de la spécialité génie biologique. Donc là ça va se faire dès Parcoursup.
Quels BUT, BUT seront proposés là à partir de la rentrée 2021?
Donc à Laval on va reprendre les 4 spécialités qu'on avait de DUT, hein, donc on va... qui vont changer de nom, mais par contre les spécialités vont rester, donc on va avoir toujours le bachelor universitaire de technologie informatique, le métier du multimédia et l'internet, génie biologique et technique de commercialisation.
Avec plusieurs parcours du coup au sein de chaque BUT, c'est ça ?
Oui, c'est ça, donc pour la spécialité technique de commercialisation, on va avoir 3 parcours, pour le métier du multimédia et l'internet, on va avoir 3 parcours également, et pour informatique, on va en avoir 2.
Et l'objectif donc de cette réforme, évidemment c'est une réforme nationale, pas que ici en Mayenne. L'objectif de cette réforme en tout cas, quel est-il ?
Donc comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, l'idée ça va être vraiment d'abord de professionnaliser davantage encore le diplôme, mais également donc de s'harmoniser avec le système LMD, puisqu'on était sur un système de Bac plus 2 en fait, principalement en IUT. Et là on va être sur un parcours qui va rentrer dans le système L, plus conforme et donc on va mieux aligner avec la licence de faculté et donc on va pouvoir envisager des passerelles entre la filière de faculté et puis nos filières en IUT.
C'est l'objectif, j'imagine que ça va se construire aussi petit à petit. Est-ce qu'on sait pour l'instant comment ça va se passer justement avec les licences générales, les passerelles qui seront possibles ?
Effectivement, il y a des passerelles possibles et c'est un des objectifs de cette réforme. Mais effectivement, il y a encore des choses à faire pour caler ces passerelles. entrée et sortie, et quelles conditions, et de quelle formation vers quelle autre. Ça, c'est encore, il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là.
Autre différence, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le profil des étudiants qui vont intégrer ces BUT, puisqu'il y en aura plus qui seront issus de bacs technologiques.
Oui, alors toujours hein, dans l'objectif de professionnaliser davantage. Donc on souhaite aussi que les bacheliers technologiques aient davantage leur place en IUT, même s'ils l'avaient déjà beaucoup. Et donc on va avoir, dès cette année, hein, l'objectif de 50% de bacheliers technologiques dans nos formations. Donc ça va renforcer aussi cet aspect professionnel et professionnalisant et d'insertion professionnelle.
C'est une réforme qui a été vite, très vite. Vous ne vous attendiez pas forcément à ce que ce soit là dès le mois de septembre ?
Oui, c'est vrai que j'avoue qu'on avait plutôt imaginé une progression sur 2 ou 3 ans hein, pour aboutir à ce pourcentage de 50% de bacheliers technologiques. Actuellement, on est plutôt sur 35-37%. Donc, il va y avoir un saut important à faire. On va le faire. Hein. Nous, bien sûr, on va se mettre en ordre de bataille hein, pour accueillir les étudiants dès la rentrée. Mais on avait imaginé qu'on aurait un peu plus le temps de le faire pour faire les choses le mieux possible, parce qu'on a aussi la mise en place du diplôme hein, qui arrive à la rentrée. Et donc, faire les deux choses en même temps nous paraissait un petit peu compliqué avec le contexte Covid qui continue toujours d'exister. Hein. On espère qu'il sera un peu derrière nous à la rentrée, mais on n'en est pas encore certain.
Là, ça change dès la sélection, mais aussi surtout derrière sur l'accompagnement, puisque vous aurez peut-être des profils plus hétérogènes que c'est le cas actuellement.
Oui, donc ça, on a un peu l'habitude de faire ça, mais c'est vrai que ça va s'amplifier, hein, donc il va falloir être vigilant sur ce point-là, et donc augmenter peut-être notre soutien, notre suivi, et puis le tutorat par les pairs, des choses qu'on fait déjà, mais il va falloir redoubler de vigilance à ce sujet-là, quoi.
Forcément, qui dit une formation en 3 ans au lieu de 2, dit aussi plus d'étudiants. Ici, comment vous allez faire au niveau des locaux, au niveau des enseignants? Comment ça va se passer?
Alors, on a plusieurs pistes. Hein, donc, pour pouvoir accueillir éventuellement plus de monde en 3e année, une des pistes, ça va être de phaser les stages les uns par rapport aux autres, de façon à ce que tout le monde ne soit pas présent en même temps dans l'établissement. On peut jouer aussi éventuellement sur de l'enseignement à distance, hein, avec une part raisonnable d'enseignement à distance à partir de la 2e ou 3e année. Ce sont des choses que les étudiants peuvent être amenés à faire, puisqu'on a maintenant appris à le faire bien, en tout cas, et les étudiants seront aussi habitués à le faire maintenant. Bon, voilà, avec bien sûr tout un tas de précautions à prendre pour faire ça bien. Et puis de toute façon, hein, il y aura toujours de la pratique en IUT, et ça, ça peut pas se faire à distance. Donc voilà, ça restera forcément ménagé, mais c'est des pistes en fait pour limiter, essayer de supporter au mieux en fait les effectifs dans l'établissement, quoi.
L'un des objectifs de cette réforme, donc de passer d'un DUT à un BUT, ce sera de laisser une place plus importante, en tout cas, à l'alternance.
Oui, effectivement, ça va être aussi pour nous l'opportunité donc de renforcer notre insertion professionnelle et donc l'apprentissage que l'on fait déjà en métier du multimédia et de l'Internet, mais de le déployer en fait sur les autres formations de l'IUT. Donc ça, dès la 2e année, on va essayer de mettre en place ça à partir de 2022.
Et lorsque la réforme des BUT sera achevée, cela devrait représenter 200 étudiants supplémentaires présents à l'IUT de Laval. Même problème de locaux qui va se poser aussi pour la fac de droit qui envisage une prochaine extension du bâtiment inaugurée pourtant en 2018. On fait à nouveau une petite pause en musique avec The Strokes. Je vous propose d'écouter Partners in Crime.
Okay.
c'était The Strokes Partners in Crime que vous écoutez dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on se met au frais, mais oui, puisqu'on l'a dit en début d'émission, il fait déjà chaud. On se met au frais, on part au studio vidéo de la ville de Laval avec toi Claire et on y découvre une nouvelle pépite.
Et oui, la semaine dernière et même tout à l'heure, je voulais annoncer Stéphane Piau, le vidéaste de la ville, nous emmène en 1983 pour un grand événement sportif lavallois. On l'écoute.
Donc c'est une archive achetée à l'INA. Donc c'est un grand match de football que je vous propose de découvrir qui parle forcément à tous les sportifs et footballeurs lavallois et mayennais. C'est le grand match de Coupe d'Europe, Stade Lavallois, Laval-Kiev, le match retour. Il y avait eu 0-0 à l'aller, on se disait qu'ils allaient se faire croquer, manger par les Russes de Kiev où il y avait Oleg Blokhin, le fameux grand footballeur très connu. Et donc, c'était le 28 septembre 1983. Je vous propose de découvrir ce petit trésor sportif filmé à Laval en septembre 83. Et donc, moi, le petit clin d'œil, j'ai joué au Stade Lavallois pendant 10 ans. Et donc, j'étais à ce fameux match. Forcément, j'avais ma carte et je jouais encore au Stade Lavallois, en équipe B du Stade Lavallois. Et donc, j'ai assisté à ce match où c'est toujours le record battu en influence, près de 18 000 personnes, des gens perchés partout avec des escabeaux, des escaliers, on peut voir sur les images. Et les Lavallois et les Mayennais vont vous raconter ça au niveau du son. Et c'est un reportage qui est assez authentique et original.
Bien des saucisses avaient grillé, bien des gadgets s'étaient vendus, bien des billets aussi. 19h, la nuit vient, les deux équipes sont là et il en arrive encore de partout. Côté ambiance, ça baigne.
Messieurs, vous nous invitez ?
Les bracos, si vous voulez.
Ah, si vous voulez.
Si vous voulez. C'est
vous
du produit.
Depuis quelle heure ?
C'est du produit mayennais, vous voyez.
Côté moral, les spécialistes mettent le paquet pour faire prendre la sauce. Ce serait plutôt côté espace vital que le problème surgit. Mais là encore, le public hier soir a su montrer qu'il savait ce qu'est un match, un grand. Triomphe du système D, chacun avait son truc. Sport de masse oblige. Hier, à Laval, la masse, c'était 20 000 personnes, dont certaines piétinaient devant les grilles depuis midi.
Donc on peut voir sur les images des gens perchés partout, sur les pylônes, sur les estrades, sur les escaliers, sur les escabeaux.
Mais vous allez rester debout pendant tout le match ?
Bien sûr, c'est normal.
Qu'est-ce que vous allez voir ?
Ben là, si on va réussir à voir quand même, parce qu'on est assez grand, là, tout derrière.
Dans les tribunes officielles aussi, tout à l'heure, il faudra bien se serrer et même le maire de Laval a pris ses précautions.
Monsieur le maire, est-ce que vous avez un pronostic ?
Ah ben, j'avais un pronostic il y a quelques jours, mais alors là, je vais me réserver quand même, je vais attendre l'après-match. J'espérerai un 1-0 pour Laval.
Et pour l'instant, le plus fébrile, c'est sans doute Henri Bisson, le président du Stade Lavallois. Plus angoissé que jamais pour ses petits, il ne veut surtout pas faire de pronostic. Mais les secondes s'égrènent et puis le sort en est jeté.
Le but maintenant, à la 33e minute, Séné va tromper son chien de garde, FCIF qui le tient à la culotte depuis le début. Sur une femme de détente, vous l'avez vu, il a le champ libre, Souto arrive en soutien. Séné est contré par Baltacha, Yank en profite pour d'une pichenette prolongée sur Souto, qui marque le but. Le but historique du stade Francis Lebasser, on va le revoir. La joie de Christian Felsi au passage. Et puis le président Bisson et Michel Le Millinaire, eux, qui se disent que ce n'est pas encore fini. On revoit l'action.
Ce n'est donc pas... le petit clin d'œil que l'on a pu voir et entendre tout à l'heure, c'était le maire de Laval à l'époque, André Pinson, qui, ce petit clin d'œil sympa, c'est qu'il a donné le score, le vrai score du match, 1-0. Donc le maire de Laval ne s'était pas planté, il a vraiment eu tout bon. Donc là, on est à la mi-temps. Et pour l'instant, il y a 1-0 pour Laval et le score va rester... tel quel.
Derrière la porte, seul l'entraîneur aura le droit à la parole, le temps d'affiner ses conseils. Le temps pour nous de rencontrer Michel Hidalgo, pour une fois simple spectateur.
Michel Hidalgo, c'est la première fois que vous voyez jouer Laval cette année ?
Oui, c'est la première fois et heureusement je les vois dans un grand jour parce que ce qu'ils ont fait en 45 minutes, c'est tout à fait extraordinaire.
Voilà, donc encore une belle découverte, je suppose, pour vous, des archives de la ville de Laval. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Sachez, comme je le dis souvent, que les portes du studio vidéo de la ville de Laval sont grandes ouvertes. C'est avec plaisir que je vous accueillerai encore les prochaines fois pour découvrir de nouvelles archives sur Laval. À bientôt.
Et on l'a entendu, 1-0 pour Kiev Laval et on attend vos pronostics pour ce soir, le grand match des Bleus. Et nous, on retrouve Stéphane pour notre dernier épisode mardi 29 juin, veille de l'étape du Tour de France. Je vous laisse donc deviner quel sera le thème de l'épisode.
Ouais, donc des épisodes très très sportifs en tout cas pour la fin de ces chroniques. 1-0 alors tu penses pour les Bleus ce soir?
Ah, je sais pas, c'est compliqué. On va dire
plus de buts que ça, enfin.
J'espère.
Mais bon, j'avoue que je ne m'avance pas trop. On verra demain. Allez, la victoire. Avant la victoire des Bleus, on l'espère ce soir, on va passer évidemment aux initiatives et on commence avec un webinaire pour l'Europe.
Mon Europe à moi, les citoyens ont la parole, c'est ce que propose la Maison de l'Europe, un webinaire sur les thématiques de la jeunesse, de la culture, du social et aussi de l'agriculture dans le cadre de leur conférence sur l'avenir de l'Europe. Plusieurs intervenants échangeront avec vous et vous permettront de vous exprimer sur votre vision et votre avis sur votre Europe. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera par visioconférence ce jeudi 17 à 18h30 et par Zoom. Il faut s'inscrire grâce au lien que vous retrouverez sur le site de la Maison de l'Europe.
On continue avec les conférences et cette fois-ci, une où tu nous promets, Claire, qu'on va bien rire.
Et oui, c'est l'exposition Gilly Gilly au Zoom à Laval qui vous propose une conférence sur le rire. Et plus particulièrement, quand le fou rire devient le rire fou. Une curieuse épidémie de rire a eu lieu en Tanzanie en 1962 et a duré plusieurs semaines. Inès Pascron de Fourmevaux, anthropologue, vous explique ce drôle de phénomène à travers une analyse historico-anthropologique. Vous l'avez compris, de quoi ravir les grands et les petits. C'est demain, mercredi, à 19h au Zoom de Laval et il faut réserver votre place au 02 43 49 47 81.
Merci beaucoup Claire. Alors autant un bon fou rire de temps en temps, oui, mais alors un fou rire qui dure 3 semaines, honnêtement, ouais. Ça ne me tente pas du tout.
Ça doit faire mal,
mais enfin en tout cas, c'est vrai que ça m'intrigue, cette conférence, donc on le rappelle, qui est prévue demain à 19h au Zoom. On peut retrouver d'ailleurs toutes ces initiatives en podcast, l'émission est à retrouver sur notre site l'autreradio.fr, et puis on est mardi, donc juste 2 petits jours avant pour participer, si vous ne l'avez pas déjà fait, au concours pour gagner 2 places pour le dernier spectacle d'Anne Roumanoff, ce sera au Carré à Château-Gontier le 24 juin prochain. Le tirage au sort, c'est jeudi, donc vous avez encore le temps, il suffit d'aller sur notre compte Instagram qui s'appelle tout simplement L'Autre Radio. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui. À suivre à 19h, il y aura un autre regard sur le handicap physique avec le témoignage de Mina, comment être et devenir parent lorsqu'on a une phobie sociale, suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Claire, on se dit à demain.
À demain tout le monde.
À demain à 12h15 et puis je vous souhaite évidemment une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.